dans la loi de la maison. Dans le temple de Dieu, il y avait un arche. Dans l'arche, il y avait deux tables de la loi. Dans ces deux tables de la loi-là, c'était une image pour nous autres aujourd'hui, chrétiens. Parce que l'arche représentait Christ, ça représentait la maison de Dieu. Qu'est-ce qui doit habiter dans notre vie, dans notre cœur? Qu'est-ce qui doit être là? Dans cette arche-là, il y avait les deux tables de la loi. Exode chapitre 20. Okay, ces deux tables de la loi-là, il y avait écrit dessus 10 commandements. En Exode chapitre 20, on peut lire ces 10 commandements-là que Dieu a donné à Israël, qui étaient écrits sur ces deux tables de la loi-là. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, en haut, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui garde mes commandements. » Troisième commandement, ça c'est le deuxième. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est avec toi dans les portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, il l'a sanctifié. Ça, c'était les 4 premiers commandements, et ça concerne Dieu. Parce que Jésus a résumé tous ces commandements-là en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Ça, c'était le premier commandement que Jésus a résumé. Ça résumait ces 4 premiers commandements-là. L'amour pour Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire le respecter pour ce qu'il est. Lui rendre à lui ce qui lui est dû. Respecter quelqu'un, ça veut dire c'est de rendre à cette personne-là ce qu'il a droit de recevoir. Dieu a créé toutes choses, il est notre Père, il a droit de toute notre révérence, tout notre respect, toute notre adoration. Il a droit sur nos vies, il a droit sur nos têtes, sur nos cœurs, sur nos pensées, il a droit sur tout ce qui nous appartient. Au complet. Il a un droit complet. Le respect qu'on doit envers Dieu est immense parce qu'on n'est qu'une poussière et Dieu n'aurait juste à enlever notre souffle pour qu'il n'y ait plus de vie dans cette poussière-là que nous sommes. Mais Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime, il nous garde en vie, il nous soutient toutes choses, mais il demande un respect. Il veut qu'on reconnaisse qui il est, sa place. C'est ça, respecter Dieu, aimer Dieu comme il est. Les 4 premiers commandements concernaient Dieu. Les 6 autres commandements qu'on va lire à partir du verset 12 concernent notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK, les 6 autres commandements. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le jour, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6e commandement, tu ne tueras point. 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dixième commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Si vous remarquez tous les commandements, Jésus les a résumés en deux seuls. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Comme j'ai dit tantôt, l'amour pour Dieu, ça commence avec le respect pour Dieu. Reconnaître qui il est. Puis l'amour pour son prochain, ça commence avec le respect pour son prochain, pour ce qu'il est. Quand il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne », ça veut dire de rendre à ses parents le respect qu'on doit à nos parents. C'est de donner à chaque personne qui existe le droit qu'ils ont de sur nous. Si on est des enfants, nos parents ont le droit de nous corriger, de nous emmener dans la voie de Dieu, ont le droit sur nous, pourvoir à tous nos besoins, mais ils ont un droit sur nous. Respecte ton père et ta mère, afin que tu vives heureux longtemps sur cette terre. Tu ne tueras point, c'est respecter la vie de son prochain. Tu ne commettras point d'adultère, c'est respecter la femme de son prochain. Tu ne déroberas point, c'est respecter le bien de son prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, c'est respecter la réputation, l'honneur de ton prochain. Puis tu ne convoiteras point la maison, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Toujours, ça se résume à le respect. Le respect pour les autres. Pourquoi le respect pour les autres? Parce que Dieu, la chose qu'il déteste le plus, c'est l'égoïsme. C'est celui qui se concentre juste sur lui, qui pense juste à son petit nombril, qui se regarde juste lui. Ça, c'est l'égoïste. C'est tout le contraire du respect de celui qui voit aussi l'autre, qui voit aussi Dieu qui est plus grand que lui et qu'il rend à chacun ce qui lui est dû. Le contraire du respect, c'est l'égoïste. C'est celui qui se concentre juste sur lui, moi, moi, moi. Si moi, je n'ai pas ça, je fais une crise. Ça, c'est le gros moi, le gros nombril. Puis Dieu haït cela. Parce que pour Dieu, Dieu est amour, puis il nous commande de marcher dans l'amour, dans le respect. Marcher en sachant qu'il y en a d'autres autour de nous autres. Qu'il faut respecter les autres. Qu'il faut respecter Dieu en premier. Qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. À la convoitise, quand ça dit « Tu ne convoiteras point rien de ce qui appartient à ton prochain. » Le mot « convoiter », ça veut dire « désirer ce qui appartient à un autre ». C'est pas le fait de désirer qui est mal, c'est le fait de désirer ce qui appartient à un autre. Si ça appartient à un autre, tu n'as pas le droit de lui prendre. Ça appartient à l'autre. Hein? Si un jouet appartient à Nyota, puis que Christelle veut lui enlever, elle n'a pas le droit, parce que le jouet appartient à Nyota. Mais si Yota a son grand frère puis il vient y voler son jouet, Yota va dire « Pourquoi mon grand frère agit comme ça? Il agit pas bien envers moi. Il est égoïste, il pense rien qu'à lui. Il vole ce qui m'appartient. » Quand tu penses juste à toi, tu fais mal à ton prochain. Quand tu agis de façon égoïste, tu fais mal à ton prochain. Quand tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu fais mal à ton père et ta mère. Quand tu ne respectes pas Dieu comme il est, tu fais mal à Dieu. C'est pour ça que Dieu, ce qu'il haït le plus, c'est l'égoïste, c'est le péché, c'est celui qui se centre juste sur lui, qui pense juste à lui, puis qui oublie les autres, puis qui oublie Dieu. Tous les 10 commandements de Dieu se résument à une seule chose, le respect. Respect pour Dieu, respect pour ton prochain. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Puis il y a des exemples très frappant dans la Bible de ces choses-là. On va tourner juste en Josué, on va tourner en un exemple de ça. du respect. Josué chapitre 7. Ok, on voit l'histoire de Josué. Ça dit au verset 1, « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées par interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternera jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? » Ici, un seul homme avait péché. Il avait pris, ça dit que Akan avait pris ce qui est dévoué par interdit. Ça veut dire, dévoué par interdit, ça veut dire, Dieu avait dit, toutes les choses précieuses que vous allez rencontrer dans la ville de Jéricho, parce qu'il venait juste d'aller combattre contre Jéricho, là, il avait remporté une éclatante victoire contre Jéricho. Dieu avait dit, toutes les choses précieuses que vous allez trouver à Jéricho m'appartiennent. L'or, l'argent, les pierres précieuses, tout ça, ça m'appartient. Puis tous les hommes, les animaux, vous allez tous les tuer. Personne ne va rester en vie. Dévoué par interdit, ça veut dire ça. Ça veut dire, tout appartient à l'Éternel, puis vous tuez tous les hommes et les femmes, les enfants, tout. Mais Akan, lui, il a vu dans les choses qui étaient, que Dieu avait dit, ça m'appartient. Tout ce que vous allez trouver de pierres précieuses, d'argent, d'or, vous le mettez dans mon trésor, ça m'appartient. Akan a trouvé, c'est-à-dire un manteau de chinéard de grand prix et un lingot d'or. Et là, il a été pris de convoitise pour ce qui appartenait à Dieu. Ça appartenait à Dieu. Dieu avait dit, ça m'appartient. Puis parce que Akan, un seul, a fait ça, tout le peuple d'Israël a été battu par ses ennemis. 36 hommes sont morts à cause d'un seul qui a commis un péché de convoitise. C'était un péché de convoitise, mais c'était dirigé directement contre Dieu parce que Dieu avait dit « ça m'appartient ». Quand Dieu dit dans Malachie que la dîme, les offrandes lui appartiennent, puisque si vous voulez que la bénédiction de l'Éternel vienne sur vous, ben apportez à la maison du trésor toutes les dîmes parce que ça y appartient. Puis si on prend de la dîme, c'est-à-dire le 10% de ce que Dieu nous donne, puis si on le prend pour nos propres convoitises, savez-vous qu'il y a une malédiction sur nous? Il y a une malédiction parce que ça appartient à Dieu. Puis le fameux 10%, eh bien, c'était dans l'Ancien Testament, mais ça dit dans le Nouveau Testament que Jésus dit, il dit, les pharisiens, les scribes, ils donnent leur dîme, mais il dit, vous autres, votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. En tant que croyants, on a été rachetés à grand prix, et le 10%, c'est un minimum qu'on doit à Dieu. Mais vous rendez-vous compte que cet argent-là, on n'a pas le droit dessus, ça appartient à Dieu. Si on y vole à Dieu, parce que ça appartient à Dieu, il y a une malédiction qui vient sur nous, automatiquement. Comme il y a une lustre sur Arcan, à cause de sa convoitise, si on prend cet argent-là pour notre propre convoitise, cet argent-là appartient à Dieu. Il faut que tu le rendes à Dieu pour être béni. Si tu prends cet argent-là qui appartient à Dieu, malédiction. Puis pensez-y, les enfants d'Israël, un seul parmi 600 000 personnes, un seul a convoité. C'était quelque chose. Aujourd'hui, qui dans l'Église donne toujours sa dîme? Qui dans l'Église rend à Dieu ce qui lui appartient? Si on continue à lire au verset 20 du même chapitre, au verset 19, à partir du verset 19, Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Parce que Dieu avait dénoncé Achan, il avait dit, c'est Achan le coupable. Josué a demandé à Achan, « Mais qu'est-ce que tu as fait, Achan, pour emmener une si grande malédiction sur tout le peuple? En quoi as-tu péché? » Puis là, Achan a dit au verset 20, Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, de 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Achan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente et ils apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et ils les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils d'Azirak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est sérieux. La convoitise, c'est très sérieux devant Dieu. Quand on prend, on vole à Dieu ce qui lui appartient, ou qu'on vole à quelqu'un d'autre ce qui lui appartient. Dieu ne prend pas ça à la légère. Il suffit d'un seul homme parmi 600. Il y était 600 dans les enfants d'Israël. Un seul a convoité, et tout le peuple a subi la malédiction à cause de ça. Mais là, toute la famille d'Achan a été brûlée, lapidée et brûlée au feu à cause du péché d'Achan. Mais toute sa famille, sa fille, sa femme, tous ses fils, ses enfants, ont tous été lapidés eux aussi. Combien c'est sérieux quand Dieu dit, il y a une loi dans la maison. Il y a une loi à observer, enfant de Dieu. Il faut apprendre à respecter et à rendre à chacun ce qui appartient à chacun. À rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, mais à rendre à chacun de nos prochains ce qui appartient à notre prochain. Et à ne pas désirer ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça le respect. C'est ça, les 10 commandements se résument à ça. Respecte tout ce qui appartient à ton prochain, tu n'as pas le droit de désirer. Ce qui est à toi, tu peux désirer, c'est pas mal de désirer si tu manges, puis tu as ta nourriture, puis tu la manges, tu te dis c'est bon, mais c'est pas mauvais, c'est bon de désirer. Dieu nous a mis des désirs dans notre cœur. Mais quand la chose appartient à quelqu'un d'autre, que tu lui prends de force, que tu lui voles, ça c'est mal. Ça c'est de l'égoïsme. Puis ça, Dieu déteste ça. Dieu est amour. Mais quand il voit cet égoïste-là, il frappe. Il frappe de la verge. Il corrige. Il ne peut pas tolérer ça. Puis la grande correction, ça va être l'enfer. Ceux qui résistent, on sait qu'il va être, ça va être l'enfer, le feu éternel qui va brûler. C'est sérieux, Dieu ne prend pas ça à la légère. On ne peut pas prendre ça à la légère en tant que croyant. C'est pas parce que nous sommes sauvés par la grâce que nous avons été pardonnés de nos péchés que maintenant, on peut vivre selon nos convoitises. Au contraire, si on est sauvé par sa grâce, aujourd'hui, on doit apprendre à respecter Dieu par la puissance de son esprit, à cause de son esprit qui habite en nous. On doit apprendre à rendre à Dieu ce qui lui appartient et à rendre à son prochain ce qui lui appartient. Puis vous savez, les enfants d'Israël avaient beaucoup changé parce que quand ils ont sorti d'Égypte, ils murmuraient, ils se plaignaient, ils se convoitaient, ils faisaient toutes sortes de choses mal. Dieu les a châtiés pendant 40 ans, corrigés, il y en a des centaines et des centaines qui sont morts, en fait, ça dit que toute une génération est morte dans le désert. Puis là, ils sont arrivés dans la terre promise, il n'y en avait plus juste un qui a convoité, parmi 600 000 personnes. Un gros changement. C'est quoi qui avait fait ce changement-là? Le désert. Quand Dieu nous fait passer dans le désert, dans la souffrance, dans la déserte, dans la misère, dans la là où il n'y a rien, parce que dans le désert, c'est sec, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Il faut que tu te fies à Dieu pour avoir l'eau, il faut que tu te fies à Dieu pour avoir la nourriture. Le désert, c'est un lieu d'épreuve. Mais quand Dieu nous fait passer dans l'épreuve, c'est pour changer notre caractère. C'est pour enlever le moi du milieu de nous. Parce qu'il ne veut pas l'égoïste. Il déteste l'égoïste. Il veut nous apprendre à aimer, à penser à Dieu et à penser à notre prochain. À vivre pour Dieu et à vivre pour notre prochain. Alors Dieu change. Puis comment il fait ça? Par le désert. Par la souffrance. Si l'enfant a tout ce qu'il veut, il devient gâté, il devient un roi. Puis ça dit dans les proverbes qu'un enfant à qui on donne tout, il finit par se croire un roi, puis il fait la honte de sa mère, la honte de son père. Puis cet enfant-là va devenir plus tard un vaurien. Un enfant qui va être rebelle parce qu'il n'a pas appris à respecter ses parents, il va être rebelle contre l'autorité, il va être rebelle contre Dieu, puis il va finir où? En enfer. C'est grave comment que Dieu, quand il nous parle de ne pas convoiter ce qui est à nous, Dieu veut nous en donner amplement. Mais il faut attendre, Dieu a un temps. Il faut apprendre à lui obéir, à lui faire confiance et à remercier surtout pour ce qu'il nous donne déjà. Parce que quand on regarde tout ce qu'il nous donne, on n'a pas besoin de convoiter ce que l'autre a. Déjà, moi je m'en rappelle, on a vécu une grosse famille, on était assez pauvres, mais ma mère me disait toujours, regarde le voisin, les voisins étaient encore plus pauvres que nous, ils étaient une grosse famille de 14 enfants, mais ils étaient encore beaucoup plus pauvres que nous. Puis ma mère me disait toujours, si tu n'aimes pas ça, ce que je te donne là, va manger chez le voisin. Mais là, je disais, oh non, je n'irai pas manger chez les poissons parce qu'eux autres, ils mangent des sandwichs secs, puis peut-être du beurre de pinot dessus. Tu sais, c'était pas drôle ce qu'ils mangeaient, là. Fait que ma mère, elle me disait, ben, si t'aimes pas ça, ce que je te donne, ne pas manger chez les poissons. Fait que là, je me taisais parce que je savais que les voisins, il y en avait moins que moi. Fait que là, je commençais à remercier Dieu pour ce que j'avais. Et j'arrêtais de me plaindre. Parce que un enfant, c'est égoïste. Il faut que l'enfant grandisse. Ça dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction va en l'éloigner. Ma mère, elle m'a tapé une fois. Mais je m'en suis rappelé toute ma vie. Elle n'a pas eu besoin de taper deux fois. Parce qu'une seule fois a suffi. Parce que j'ai reconnu que si ma mère m'avait tapé, si elle avait raison de me taper. Puis cette fois-là, quand elle m'a tapé, ça m'a assez surpris. Mais là, j'ai dit, hey, j'ai fait quelque chose de mal. Parce que ma mère me tape, j'ai vraiment fait quelque chose de mal. Puis j'ai reconnu pourquoi j'avais fait du mal. Parce que je venais juste de taper ma petite sœur à côté. Puis là, ma mère a dit, « Toi, taper ta petite sœur? » Là, ma mère me l'a tapé. Elle a dit, « Refais plus jamais ça. » J'avais plus jamais touché ma petite sœur. J'avais plus jamais tapé ma petite sœur. Puis j'avais compris. J'avais fait le mal. Puis c'est avec ça, en demandant pardon à Jésus de mes péchés, c'est là la première fois que j'ai senti l'amour, le pardon. J'avais demandé, j'étais jeune, j'avais peut-être 11, 12 ans, puis j'avais demandé à Jésus de me pardonner de mon péché, parce que là, j'avais senti que j'avais péché. Puis Jésus avait pardonné mon péché, puis là, il était venu une grande paix. Puis là, j'avais tout le monde, tout à coup, je ne sais pas ce que j'avais. Il y avait une paix, c'était l'Esprit de Dieu avait commencé à agir dans ma vie. J'avais juste 11 ans. Mais là, il y avait de l'amour. À place d'avoir de l'égoïsme, il y avait de l'amour. Parce que j'avais été à Jésus, qui lui enlève notre cœur de péché, qui enlève notre cœur de pierre, notre cœur égoïste, puis met à la place un cœur d'amour, un cœur de chair, qui est capable de penser aussi aux autres. Pas juste penser à lui, son petit moi, oh mes petites affaires, oh si j'ai pas ça, moi, c'est toujours centré sur lui. Mais Dieu nous a appris exactement le contraire, à donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu donne. Il pense pas à lui. S'il aurait pensé juste à lui, il nous aurait tous foutus dehors parce qu'on faisait toute sa colère, on attisait sa colère parce que la terre était remplie de violence. À un moment donné, il a pensé tout nous détruire. Mais Dieu est amour. Il a eu compassion. Puis là, il dit, bon, je vais en garder une petite gang, parce que eux autres, ils me craignent encore un peu. Ils me respectent encore un peu. Hein, ça dit que Noé a eu la vie sauve parce que lui, il a été trouvé juste parmi tous les gens de sa génération. Lui, il avait encore un petit peu de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, le commencement de la sagesse. Il avait encore un petit peu de respect pour Dieu. Fait que lui seul a été sauvé. Puis Jésus a bien dit, à la fin des temps, il en sera comme au jour de Noé. Pourquoi Jésus a dit, à la fin des temps, il en sera comme au jour de Noé? Parce qu'il savait qu'à la fin des temps, le respect pour Dieu, le respect pour les autres, le respect pour ses parents allait diminuer. Mais en tant que croyant, si on veut être sauvé, justement, et aller dans la présence de Dieu, le salut que Jésus nous donne, il ne faut pas l'avoir juste sur nos lèvres, pour l'avoir dans notre cœur, dans le fond du cœur. Il faut que sa loi, par son esprit, vienne habiter dans le fond du cœur. Hein, ce n'est pas juste ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont être sauvés. C'est tous ceux qui font la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Puis ton prochain comme toi-même. Rends à chacun. Rends à Dieu ce qui lui appartient. La dîme et les offrandes. Le portefeuille, ça appartient. Ton temps lui appartient. Les prémices, ça dit dans l'Ancien Testament, il donnait les prémices de tout ce qu'il y avait. Mais donne à Dieu les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. Quand tu commences la journée, donne le premier temps que tu as à Dieu. Donne le meilleur de tes pensées. Laisse pas à Dieu notre dernière place. Quand j'ai le temps, je vais te prier. À la dernière. Non, ça c'est les dernières places. Dieu va avoir les premières places. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est Dieu. Il a tout créé. Ça fait qu'il faut se soumettre à cette loi qui est dans la maison. Si notre pays n'y aurait pas de loi, si on circulerait dehors et il n'y aurait pas de loi, si les automobiles qui circulent n'auraient pas de loi, moi je décide aujourd'hui de m'en aller dans le côté gauche. Mais l'autre s'en vient dans le côté gauche, mais moi je m'en vais dans le côté gauche. Je décide que je m'en allais dans le côté gauche. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va être le free-for-all, ça va être des accidents partout. Si on respecte les lumières, s'il y a une lumière, ben là je décide de passer droite, moi. Si j'ai aucun respect pour l'autorité qui est là, ça va être le chaos, ça va être le désordre, ça va être la haine, ça va être la violence, ça va être la guerre. Dieu a mis ces choses-là pour la bonne marche de la maison, pour le bon fonctionnement, pour que chacun se sente bien et aimé et à l'aise. Parce que quand on aime notre prochain, puis quand notre prochain nous aime, on se sent bien. Quand quelqu'un nous haït, on se sent mal. Parce que la personne nous haït. Mais l'autre, si on haït l'autre, l'autre personne va se sentir mal à cause de nous parce qu'on l'a haït, parce qu'on ne le respecte pas. C'est pour ça que Dieu est si concerné avec cette loi dans la maison, le respect pour lui et pour son prochain. L'amour dans toutes ses dimensions. Et Dieu est obligé souvent de nous emmener dans le désert pour former cet amour-là, ce respect-là, pour changer le caractère, le cœur égoïsme, pour changer cet égoïsme de vouloir tout penser juste à nous, de vouloir tout satisfaire nos convoitises avant de penser à Dieu et au prochain. Vous savez, un des plus grands problèmes ici au Canada, justement à cause de l'abondance qu'ils ont, c'est justement la convoitise. Parce que c'est si facile d'avoir plein de choses, puis de penser juste à soi. C'est si facile. Mais c'est pas parce qu'on a plein de choses qu'on est obligé de tout dépenser pour soi. Non. En tant qu'enfant de Dieu, c'est à Dieu, premièrement, qu'on doit. On doit dépenser pour l'œuvre de Dieu, premièrement. On doit dépenser pour les autres. Puis l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ont toujours dit, n'oubliez pas les pauvres. N'oubliez pas les gens qui ont moins que vous. Parce qu'il y a des gens qui ont moins que nous. N'oubliez pas les pauvres. N'oubliez pas de donner à des gens qui sont encore moins fortunés que nous. Parce que il y a une grande bénédiction. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 9. Au verset 6, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu es un enfant de Dieu et si Dieu a changé ton cœur, maintenant tu as un cœur pour donner. Pas pour être égoïste juste pour toi. T'as un cœur pour donner. Et verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à toujours. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ça a été la vie des premiers chrétiens de se donner à Dieu premièrement puis se donner aux autres. Je lisais l'exemple des chrétiens coréens. Les chrétiens coréens, puis agissent puissamment, on sait, il y a au moins 25% de la population qui sont devenus chrétiens aujourd'hui. Mais quand Dieu a commencé à agir dans les années 1950-1960, la Corée était un pays très, très pauvre. Aussi pauvre que n'importe quel pays d'Afrique. Aujourd'hui, ils sont rendus assez riches, mais dans ce temps-là, ils étaient très pauvres. Puis ça dit que les chrétiens étaient ciselés pour Dieu. Qui donnaient 50% de leur salaire en dîmes. 50%. Puis ils étaient très pauvres. Puis il y avait pas d'argent, donc ils prenaient la nourriture, leur riz, ils vendaient leur riz, puis avec l'argent que ça faisait avec leur riz, ben, ils en donnaient la moitié. Et il y avait un prédicateur américain qui avait été là, qui avait été voir cette église-là, qui grandissait, qui voyait les miracles, les signes, les prodiges. Mais quand il avait vu que ces pauvres chrétiens-là, coréens, donnaient jusqu'à 50% de ce qu'ils avaient pour Dieu, il en était pas revenu. Mais comprenez pourquoi Dieu les bénissait tant. Puis Dieu les bénissait, puis les bénissait, parce que ces gens-là sont toujours en train de donner. Puis ça, c'est le cœur de Dieu. C'est ce qui est dans son cœur, puis c'est ce qu'il veut mettre aussi dans notre cœur. De donner, de ne pas être égoïste, d'apprendre le respect dans toute situation. Et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, rendre à l'autre ce qui appartient à l'autre. Amen.